Ce matin, je vais vous parler sur l'appel à suivre Jésus. C'est un appel qui est tellement magnifique, tellement puissant, tellement un privilège d'être appelé à suivre Christ, à suivre Jésus. Et si vous avez votre Bible, si vous avez votre iPhone, votre téléphone, Android ou quoi que ce soit, ou l'écran, ici à l'avant, vous pourrez suivre avec moi ce texte de l'Évangile de Jean au chapitre 21. C'est un texte relativement long que je veux lire avec vous ce matin, mais pour nous mettre dans le contexte, on a besoin de le lire au complet. Donc, un appel à suivre Jésus. Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Lorsqu'ils eurent déjeuné, et juste avant que je continue la lecture, juste vous mettre dans le contexte, parce que là, il y en a qui disent « lorsqu'ils eurent déjeuné », ils sont où et de qui il s'agit? Il s'agit de Jésus et ses disciples qui sont sur le bord magnifique de la mer de Tibériade ou la mer de Galilée. Et ils sont là sur le rivage magnifique, le soleil qui vient de se lever. Il y a un feu sur la plage avec des poissons, avec des pains également, un petit déj extraordinaire. Et ils sont là, nous sommes après la résurrection de Jésus. Donc, Jésus est ressuscité déjà depuis quelques jours. Et les disciples se retrouvent avec Jésus. Et donc, lorsqu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Ils lui répondirent, « Ben oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Et Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Et lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Et Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » Il lui demanda la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'affection pour moi? » Pierre devint très triste de ce que Jésus lui avait demandé à la troisième fois, « As-tu de l'affection pour moi? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Et Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » Et Jésus poursuit. Il dit, « Ce que je te dis, c'est la vérité. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et quelqu'un d'autre t'attachera et te conduira où tu ne voudras pas aller. » Et le narrateur précise, Jean dit, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. En fait, Jésus venait de décrire une scène relative à la crucifixion. Et ayant ainsi parlé, Jésus dit à Pierre, « Suis-moi. » Ensuite, je peux imaginer Jésus et Pierre qui s'en vont sur le rivage et Pierre qui entend des pas dans le sable derrière lui, il se retourne. Et Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le dernier souper, s'était penché vers Jésus, lui avait demandé, « Seigneur, qui est celui qui va te livrer? » Donc, cette description nous parle de Jean, l'apôtre Jean, et l'auteur de l'Évangile. En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, « Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver? » Et Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, qu'est-ce que ça peut te faire? Toi, suis-moi. » Amen. L'appel de Jésus à le suivre est un appel magnifique et extraordinairement puissant. C'est plus qu'une opportunité. Littéralement, pour moi, l'appel à suivre Jésus, c'est un ciel ouvert vers la vie. C'est une ouverture extraordinaire vers la vraie vie, en fait. Cet appel, c'est pas une suggestion, c'est pas juste une opportunité, c'est pas juste une proposition ou une recommandation, c'est pas un faire-part, c'est pas une invitation à vivre quelque chose d'extraordinaire, un bootcamp, un week-end sur le bord de la plage. Ce n'est même pas une exhortation. Pour moi, l'appel à suivre Jésus, c'est un ordre. C'est un ordre du Maître. Toi, suis-moi. C'est un ordre fait avec une grande autorité. Un peu comme lorsque Jésus a calmé le vent et la tempête et il a dit au vent et à la tempête, tais-toi! Le calme est arrivé. Ou encore, c'est comme lorsque Jésus était devant le tombeau où Lazare était étendu mort à l'intérieur et Jésus qui dit ces deux mots, Lazare, sors. Et vous savez ce qui est arrivé? Lazare, mort, est sorti vivant. du tombeau. Alors, pour ceux qui auraient peut-être aucune idée de qui on parle lorsqu'on parle de Lazare, je vous le raconte en moins de 3 minutes, top chrono. Alors, Lazare et ses deux sœurs, Marthe et Marie, sont des amis proches de Jésus et de ses disciples. En fait, ils ont hébergé Jésus, ils ont reçu Jésus et ses disciples à manger, à coucher. Ils les ont accueillis régulièrement. En fait, parce que Béthanie, c'est une ville qui est proche de Jérusalem, c'est la banlieue, ils vivent dans le 450, c'est mieux que de vivre dans le 514. Hein? C'est plus tranquille, c'est plus tranquille que la grande ville. Et vivre dans le 819, c'est encore plus tranquille. Et un jour, Lazare tombe gravement malade, au point qu'il en est mort. Mais Jésus était absent pendant la maladie de Lazare, donc c'est une maladie foudroyante qui lui a enlevé la vie, mais la famille doit procéder comme c'est obligé et comme c'est la coutume, procéder aux funérailles à ce moment-là, et on met son corps dans un tombeau après l'avoir mis dans des bandelettes, comme un peu comme une momie, et on le met dans un corps, dans une caverne, dans un tombeau, et on roule une grande pierre devant ce tombeau pour le garder à l'intérieur et que aucun animal en fait vienne souiller ce corps là et profaner ce corps. Mais pour faire une histoire courte, Jésus finalement va arriver 4 jours après la fin des funérailles, va arriver à Béthanie et va se rendre directement au tombeau où repose le corps de Lazare et il ordonne qu'on roule la pierre pour ouvrir le tombeau pour le rendre accessible. Et là, c'est la consternation, c'est le choc, parce que même une de ses sœurs va dire, « Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est à l'intérieur, et approche-toi un petit peu de la pierre, et tu vas voir qu'il sent déjà. » Donc, même après 4 jours, même dans l'humidité de ce tombeau, son corps commençait à se décomposer, mais Jésus se laisse pas arrêter. Il ordonne à rouler la pierre, je vous ai dit. Alors Jésus, alors que la pierre est roulée, va prononcer 2 mots avec une grande autorité. Il va dire, Lazare, sors! Et à l'instant même, même si la foule avait été choquée par le fait qu'il ordonnait de rouler la pierre, imaginez leur étonnement et leur choc lorsqu'ils ont vu finalement Lazare apparaître dans l'entrée du tombeau, enveloppé de bandelettes et d'arriver comme ça, vivant. Je peux imaginer le visage de Lazare. Lazare qui était mort depuis 4 jours, qui était dans ce tombeau, et comment il sort, et ses yeux qui sont un peu tout écarquillés, qui se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et son sourire aussi, qui est un peu comme figé et un peu gêné de tout ça, il est sous le choc lui-même. Laissez-moi vous faire remarquer que Lazare ne pouvait pas être plus mort, que c'est possible d'être mort. Il y a des gens qui disent, ah, il était peut-être juste inconscient pendant quelque temps et il n'est pas vraiment ressuscité. Non, il était gravement, pas juste gravement malade, mais il était vraiment mort, autant que mort, c'est possible d'être. Il était même en état de décomposition. Donc, déjà, il se sentait et il n'y avait rien, en fait, aucune médication, aucun électrochoc, aucun défibrillateur avait le potentiel de ramener Lazare à la vie. Mais uniquement 2 mots prononcés par Jésus ont fait toute la différence et ça a pris cet ordre de la part de Jésus. Lazare sort pour créer la vie là où la mort avait fait son œuvre et même la décomposition avait commencé à faire son œuvre. Et c'était pas juste pour Lazare une possibilité. C'est pas juste, ben si ça te tente, tu peux sortir. Et je peux pas imaginer Lazare qui aurait dit, ben non, moi je suis bien ici, je veux rester à l'intérieur. Je refuse ton invitation. Non, c'était pas une invitation, c'était un ordre que Lazare maintenant voulait absolument obéir de sortir de cet endroit-là. Il voulait passer de l'ombre à la lumière, comme on vient de chanter ce matin. C'était un appel efficace envers Lazare que même la mort ne pouvait pas résister aux 2 mots que Jésus a prononcés. Lazare sort. La mort, les ténèbres ont été obligés de lâcher prise sur leurs prisonniers et Lazare a pu enfin sortir, la mort devait le relâcher et Lazare pouvait et il voulait absolument sortir sur l'appel de Jésus. C'est la même chose, voyez-vous, lorsque Jésus nous appelle à le suivre personnellement. En 1976, donc il y a quelques années de cela à peine, Jésus a dit, « Sylvain, sors et suis-moi ». et Sylvain Tousignan est sorti de son tombeau et il a commencé à suivre Jésus. Il y a maintenant près de 45 ans passé. Et maintenant, il était passé de la mort à la vie. Et Sylvain a voulu et il pouvait suivre Jésus. Et il continue à le suivre encore aujourd'hui sur l'ordre de Jésus. Voyez-vous, Jésus, ce n'est pas un sauveur désespéré qui lance des invitations à gauche, à droite, qui envoie des faire-part et des invitations en espérant que, j'espère que quelqu'un va venir, j'espère que quelqu'un va accepter mon salut par pitié ou par compassion. Jésus ne se demande jamais et ne s'est jamais demandé si en mourant sur la croix et en ressuscitant, s'il y a des gens qui auraient l'intelligence et la sagesse de croire en lui, de croire dans son salut. Jésus n'est pas un homme qui est à la recherche d'amour qui tente de débuter une entreprise en souhaitant que quelqu'un va embarquer dans son projet de sauver des âmes du jugement éternel. Oh que non! Jésus n'est pas ce genre de sauveur. Jésus, c'est le Seigneur de l'univers. Il est le Créateur des cieux et de la terre. Il est l'Alpha, l'Oméga, le commencement et la fin, le Fils de Dieu, le Dieu, le Fils de toute éternité, celui à qui aucun démon, aucune maladie, aucune chaîne, aucune dépendance, aucun lien ne peut lui résister. Il est celui que la mort ne pouvait pas garder, que le tombeau ne pouvait pas contenir. Jésus, c'est Dieu fait chair. Et tout ce qu'il dit arrive, tout ce qu'il commande s'accomplit également. Et tout ce qu'il fait, il le fait à merveille. Amen. Dieu, Jésus. Jésus, c'est celui qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a fait entendre des sourds également, qui a même ressuscité des morts comme Lazare. Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse devant lui, que toute langue confesse que Jésus est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et cela de toute d'éternité en éternité, et cela pour toujours. Est-ce qu'on peut donner une main au Seigneur? Merci Jésus pour qui tu es! N'oubliez jamais qui il est et ce qu'il fait. Il le fait à merveille. Et l'appel de suivre Jésus, c'est l'appel et l'ordre du Seigneur, du Créateur des cieux et de la terre. Et lorsque Jésus dit « Suis-moi », les ténèbres et la mort doivent s'écarter pour laisser le prisonnier sortir enfin et pour lui obéir et suivre Jésus. L'appel de suivre Jésus envers Simon, fils de Jonas, c'était pas la première fois que Simon, fils de Jonas, entendait Jésus lui dire « Suis-moi ». 3 ans auparavant, pour la première fois, il avait entendu Jésus l'appeler et lui dire de le suivre. En fait, on trouve ce récit-là dans l'évangile de Marc, un évangile qui a été écrit et inspiré par les prédications et le témoignage de l'apôtre Pierre lui-même, qui raconte brièvement, mais d'une façon très, très puissante, cet appel efficace qui a retenti dans son cœur 3 ans auparavant sur le même rivage de la mer de Tibériade ou la mer de Galilée. Et vous avez sur l'écran Marc chapitre 1, versets 16 à 18. « Comme Jésus passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon. » Ça, c'est notre Simon, fils de Jonas. « Et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient des pêcheurs de poissons. Et Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ou à cette parole, ils laissèrent là leur filet et suivirent Jésus. » C'était la première fois que quelqu'un s'adressait à lui d'une façon aussi puissante, autoritaire, pleine de conviction et d'assurance, comme jamais personne lui avait parlé comme ça. « Suis-moi, suivez-moi et je vais transformer votre carrière, je vais transformer votre mission dans la vie. J'ai autre chose pour vous dans votre vie. » Et c'était un ordre et un appel à une vie supérieure, à une vie significative, à une vie à un autre niveau, encore plus élevé que ce que Simon, fils de Jonas, avait pu jamais connaître. Et de toute façon, Simon voulait maintenant voulu suivre parce qu'il pouvait maintenant le suivre, laisser derrière lui sa vie de routine, sa vie qui mène pas à grand chose, et maintenant entrer dans la vie que Jésus avait pour lui. Simon, fils de Jonas, suis-moi, je vais te faire de toi un pêcheur d'hommes. Et cet appel a retenti à l'intérieur de lui, et Pierre en a gardé le souvenir, en fait, pour toute sa vie. Plus tard, plus âgé, il va écrire la première et deuxième épître de Pierre que nous avons vers la fin du Nouveau Testament. Et dans la première épître de Pierre, Pierre va repenser à ce moment où il a été appelé à suivre Jésus. Et il va dire, en parlant de tous les chrétiens qui ont été appelés à suivre Jésus, dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, « Vous êtes une race élue, un peuple que Dieu s'est acquis, afin que vous annonciez les vertus, les louanges, la gloire, la magnificence de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Les années ont beau passer pour l'apôtre Pierre, il n'y a rien qui diminue au niveau de son appel qu'il a reçu de suivre Jésus. C'est même pas juste rendu des ténèbres à la lumière, c'est à son admirable lumière. Même ça vient de monter d'un cran. Plus les années passent, plus il est heureux, il admire maintenant tout cet appel qu'il a eu dans sa vie. Depuis cet appel-là, premier appel, extrêmement et efficacement puissant, Simon, fils de Jonas, est rendu à la vie et c'est maintenant son cœur qui veut le suivre. Et à cause de cet appel-là, il a pu vivre des choses extraordinaires parce que dans les mois, les quelques années qui vont suivre, il va assister de ses yeux, il va voir le miracle de l'eau changer en vin, le meilleur vin au monde. Il est témoin de la guérison de l'homme boiteux de naissance sur le bord de la piscine de Bethesda. Il va participer à la distribution des pains et des poissons pour nourrir plus de 5000 hommes et à deux reprises. Il va vivre ce miracle-là. Il va regarder probablement avec un petit fou rire dans son visage lorsque Jésus crache à terre, fait de la boue avec sa salive et il met ça sur les yeux d'un aveugle et il dit « Maintenant, va te laver. » Et l'aveugle y va, il se lave les yeux et tout à coup, il voit clairement. Il voit nettement les gens autour de lui. Comment décrire même son excitation lorsque il a vu Lazare sortir du tombeau, celui qu'on parlait il y a quelques instants. L'euphorie que ça a dû être pour lui de vivre tous ces instants avec Jésus. Toutes ces années, ces 3 années avec Jésus, de voir les miracles, d'entendre les enseignements, d'entendre les explications des choses du royaume de Dieu. Ça, c'est le baccalauréat qui bat tous les baccalauréats des instituts théologiques qu'il peut y avoir au monde, sur la planète maintenant, d'avoir vécu ces moments avec Jésus, une vie d'aventure, de miraculeux. Réellement, c'est un appel à la vie de mort que nous étions, parce que c'est la même chose pour nous. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière parce qu'il t'a appelé par ton nom, parce qu'il t'a appelé à le suivre. Et c'est l'appel de Jésus dans ton cœur encore aujourd'hui. Je crois qu'il y a des gens ici ce matin qu'en ce moment, vous entendez pratiquement votre prénom être nommé par Dieu et qui te dit « Suis-moi, je vais transformer ta vie au-delà de tout ce que tu as pu imaginer, de tout ce que tu pourras imaginer. Suis-moi, peu importe qui, peu importe quoi, peu importe ce qui est autour de toi, fais juste me suivre. Toi, fais juste me suivre. C'est tout ce que je te demande. » Je reviens 3 ans plus tard, sur le bord de la mer de Tibériade, à notre texte de Jean, chapitre 21, après la résurrection de Jésus. Jésus avait dit à ses disciples, allez en Galilée sur une certaine montagne, et là, je vous y retrouverai. Et là, dans Jean, chapitre 21, ils sont effectivement en Galilée, mais pas sur une certaine montagne. En fait, ils sont sur les bords de la mer de Galilée, qu'on appelle aussi la mer de Tibériade. Et Pierre regarde le rivage un rivage qu'il connaît très bien pour avoir été lui-même galiléen et avoir été un pêcheur de poissons sur ses rives et sur ses eaux également, et l'eau qui s'étend sur des kilomètres. Il connaît très bien cet endroit parce que c'est là que son métier s'exerçait. Mais depuis plus de 3 ans, il avait quitté ce métier de pêcheur. Et quelle aventure ça avait été. Mais ici, maintenant, Pierre prend une décision qui nous surprend. Je retourne pêcher. Je retourne à la pêche. Et ça peut paraître anodin parce que il y a probablement plein de gens ici qui disent ça à tous les week-ends durant l'été. Moi, je retourne pêcher ce week-end. On a un week-end de boys et puis on a un lac, on a réservé quelque chose. Mais c'est pas de ça qu'il parle. Il parle de retourner à son métier. Il parle de retourner à la pêche, de retourner pêcher comme il le faisait avant. Et je crois qu'il y avait certaines raisons qui ont emmené Pierre ou Simon, fils de Jonas, à prendre cette décision-là de retourner à son ancienne carrière. Rappelons-nous que quelques jours à peine avant, il avait renié connaître Jésus. Il avait juré de n'avoir rien à faire avec cet homme-là, de ne pas le connaître et de ne l'avoir jamais suivi. Alors, je pense que dans les jours qui ont suivi, il se sentait inadéquat, il se sentait incompétent, il se sentait coupable, faible, pas à la hauteur. Il s'était pas tenu pour Jésus dans un temps où Jésus avait le plus besoin de lui. Et aussi, on sait que Pierre, Simon, fils de Jonas, n'était pas le gars le plus patient sur la planète. Pierre, c'est un impulsif. Pierre, c'est quelqu'un qui se met souvent le pied dans la bouche, quelqu'un qui dit toutes sortes de choses, après ça, qui regrettait par la suite. Il est très impulsif. Et je me dis, moi, à sa place, je me sentirais pas non plus très compétent ou adéquat pour faire du ministère, pour être dans le ministère quel qu'il soit. Pour Jésus, il avait failli tellement de fois et les autres qui sont avec lui se sentent pas mieux non plus parce que lorsqu'il dit « je retourne à la pêche », ils ont dit « on y retourne, on s'en va nous aussi à la pêche ». Si le récit de l'Évangile de Jean se terminait avec cette histoire-là, ça finirait d'une façon absolument triste, démoralisante, mais combien sont heureux, et merci Seigneur, que l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire ne s'arrête pas ici, comme ça, et ton histoire non plus ne se termine pas comme ça. Ton histoire, je ne sais pas où tu es rendu dans ta communion avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, dans ton chemin avec Dieu, le fait que tu suives Jésus. Où t'es rendu aujourd'hui après 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 6 mois? Où t'es rendu? Mais ton histoire ne s'arrêtera pas ici, maintenant. La beauté et la grandeur de ce récit dans Jean chapitre 21 remonte un petit peu plus tôt au verset 4 lorsqu'il est dit « Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. » Wow! Jésus se trouva sur le rivage. Les disciples sont partis à la pêche. Je vous raconte un peu le topo, l'histoire. Pierre dit, je m'en vais pêcher. C'est la veille, ça. Ils s'en vont à la pêche. Ils pêchent toute la nuit. Ils lancent leur filet. Ils attendent un peu. Ce sont des pêcheurs professionnels. Ils savent comment faire. C'est pas des novices qui commencent et qui n'ont aucune idée qu'il faut lancer un filet dans l'eau. Ils lancent le filet dans l'eau. Ils savent comment le ramener. Il n'y a rien. Des cailloux, des moules, des coquillages, rien d'autre. Une botte de caoutchouc. Non, il n'y en avait pas à l'époque. Ils trouvent rien. Ils font la nuit comme ça, à parler, à discuter, à essayer de dormir, à essayer d'attraper quelque chose pour reprendre leur métier, mais il n'y a rien. Et le matin commence à poindre, le soleil commence à paraître à l'horizon, et là, ils voient un homme qui est sur le rivage. C'est Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas. Ils ne savent pas qui il est. Et cet homme-là leur dit, « Avez-vous quelque chose à manger? » Il veut probablement leur acheter des poissons, comme probablement d'autres le faisaient. Il dit, « Non, on n'a rien. On n'a rien attrapé de toute la nuit, rien. Que dalle, ça n'a pas fonctionné. » Et Jésus leur dit, ils ne savent pas encore que c'est lui, « Jetez le filet du côté droit. » Moi, je ne suis pas un pêcheur professionnel. Mais lancer mon filet, ma ligne à gauche ou à droite, je suis pas sûr que ça fait une grande différence dans un lac, dans une mer. Je peux comprendre certains spots de pêche, là, mais t'es dans la mer, à droite ou à gauche de la chaloupe, ça devrait pas faire une si grande différence. Des poissons, c'est pas statique, c'est dynamique, ça bouge. Mais ils le font. Ils le font, c'est pas pourquoi, mais ils obéissent. Ils jettent leur filet à droite et le filet se remplit à pleine capacité, même au-delà de ce que le filet pouvait contenir. Et là, ils réalisent, c'est le Seigneur. Et Pierre, dans son excitation, je dis que c'est un impulsif, il jette à l'eau immédiatement, il plonge dans l'eau, il veut rapidement retrouver Jésus. Et lorsqu'il arrive sur le rivage, il s'aperçoit qu'il y a un feu, il y a des poissons, il y a du pain, tout est cuit, tout est prêt pour le petit déjeuner. Et c'est là qu'on retrouve notre histoire. Et ça, c'est tellement Jésus. Après nos décisions qui nous ont éloignés de lui, après nos nuits d'insomnie à s'inquiéter pour ceci, à s'inquiéter pour cela, après nos multiples efforts et vains et inutiles pour essayer de travailler pour s'en sortir, Jésus est là sur le rivage. Jésus n'est jamais loin. Jésus te trouve sur ton rivage, sur le rivage de tes échecs, de tes déceptions, de tes doutes, et il vient à ta rencontre. Parce que Jésus n'avait pas terminé avec Pierre, pas plus que terminé avec toi. Peu importe où tu es aujourd'hui, pas plus qu'avec moi non plus, Jésus n'a jamais abandonné Pierre, même si Pierre veut retourner à son ancien métier, à son ancienne vie. Jésus se souvient très bien de sa première rencontre avec Pierre alors qu'il l'avait appelé à le suivre. Et son appel envers Pierre n'avait pas changé d'un iota. Et Jésus va le ramener dans son appel, va le ramener dans sa destinée. Jésus va avoir une rencontre significative et intense avec Pierre qui se compose de trois éléments essentiels avec lesquels je veux terminer. Premièrement, c'est un appel à aimer Jésus. Deuxièmement, c'est un appel à tout laisser, à abandonner pour Jésus. Et c'est un appel à obéir à Jésus n'importe quoi, à n'importe quel prix, peu importe quoi. Cet appel à suivre Jésus est exigeant. Il demande beaucoup. Je ne vous le cacherai pas. Notre salut, il est entièrement payé par Jésus, entièrement. Il n'y a pas rien à ajouter au salut de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes entièrement sauvés par grâce. Nous ne méritons pas d'aller au ciel. Tu ne mérites pas, je m'excuse de péter ta bulle, mais tu mérites pas d'aller au ciel. Et pourtant, nous sommes sauvés par grâce, sans aucun mérite, jamais, never. Mais le salut de Dieu n'est pas quelque chose, malgré tout ça, malgré la gratuité du salut, le salut de Dieu en Jésus n'est pas quelque chose de cheap. C'est pas quelque chose à rabais. C'est pas du seconde main. C'est pas quelque chose de abîmé, bon marché. Suivre Jésus signifie de lui soumettre entièrement notre vie pour marcher comme lui-même a marché aujourd'hui en 2023. Mais qu'est-ce qui peut motiver une personne à tout laisser? Ses ambitions, ses passions, ses désirs, ses goûts pour suivre Jésus et le suivre pour lui obéir. Qu'est-ce qui notre motivation profonde. Et Jésus nous la donne ici dans ce texte-là. La motivation pour suivre Jésus, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est le seul pouvoir qui peut motiver ce genre de consécration. Regardez, juste sur le plan humain, les gens qui aiment beaucoup se sacrifient beaucoup. Les gens qui aiment beaucoup sont prêts à laisser beaucoup de choses derrière eux pour atteindre l'objet de leur amour. Par exemple, des parents vont donner leur vie, et parfois littéralement, pour leurs enfants. Ils sont prêts à le faire. Des jeunes vont donner tous leurs efforts, alors qu'à l'école, ils donnent pas toujours leurs efforts, mais pour leur sport, par contre, ils sont prêts à donner leur 110% pour réussir et faire leur place. Des hommes et des femmes vont donner littéralement leur vie par amour pour leur pays. Et il y en a qui le font en ce moment. Les gens vivent et meurent par amour, pour ce qu'ils aiment. Et en ce qui concerne la vie d'un disciple de Jésus, c'est l'amour de Dieu pour Dieu qui nous convainc, qui nous presse, qui nous pousse, qui nous drive, qui nous motive à suivre Jésus. Et c'est pas une motivation nouvelle, C'est pas innovateur. Déjà dans la loi de l'Ancien Testament, un des commandements les plus importants et qui résume l'ensemble de la loi, Jésus l'avait dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça, c'est l'essence même du royaume de Dieu. Et en d'autres mots, chacune de nos facultés, de nos aspects de notre vie en amour avec Dieu. Regardez ce que l'apôtre Jean, lorsqu'il relate les paroles de Jésus, et c'est sur l'écran, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Est-ce que j'ai dit le verbe aimer? Oui, il y a une couple de fois quand même dans le texte. Tout ça a rapport avec l'amour. L'amour pour Dieu du début de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, en passant par la loi de Moïse et par les psaumes. Nous sommes appelés à aimer Dieu avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Suivre Jésus a rapport avec aimer Jésus. Parce que l'amour, c'est la force de l'obéissance. C'est la force de l'obéissance. L'amour, c'est la force du devoir. C'est la force du service. C'est la force du sacrifice ultime. L'amour, c'est la force de notre adoration. Pourquoi nous adorons Jésus? Parce que nous aimons Jésus. Parce que nous aimons Dieu. C'est la force de notre fraternité également. Parce que nous aimons Jésus, nous aimons les frères, nous aimons les sœurs, nous aimons être avec à l'Église et en communion à cause que nous sommes en communion avec Jésus. Et c'est essentiel. Ce que Jésus veut nous communiquer aujourd'hui est relevé chez Pierre lorsqu'il lui demande « M'aimes-tu? 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 » À trois reprises. Et pourquoi est-ce que Jésus lui pose cette question? Parce que nous suivons ce que nous aimons. Nous suivons qui nous aimons. Nous servons ce que nous aimons. On va sacrifier pour ce que nous aimons. Est-ce que tu m'aimes? C'est ça la question. Suivre Jésus a tout à voir avec notre amour pour Jésus. Voyez-vous, Dieu ne nous appelle pas au légalisme, des règles, des règlements, des consignes à suivre. Oh, il y en a. Mais Dieu ne nous appelle pas, c'est pas l'essence même de notre relation avec Jésus, de notre relation avec Dieu, de pourquoi on vient à l'Église. On n'est pas ici à cause de la peur ou de la terreur. Nous sommes ici motivés par l'amour pour Dieu le Père, pour Dieu le Fils, pour Dieu le Saint-Esprit. Et la question que Jésus demande à Simon, c'est pas « Simon, est-ce que tu me connais, théologiquement parlant? Est-ce que, Simon, est-ce que tu témoignes le nom de Jésus, mon nom aux gens qui t'entourent? Est-ce que tu as parlé de moi à ta famille? » Il ne demande pas non plus, Simon, est-ce que tu prends le temps de lire la Bible à tous les matins, tes deux chapitres par jour, à prendre 20 minutes par jour pour prier? Est-ce que tu donnes, ah oui, Simon, est-ce que tu donnes généreusement à mon œuvre? Est-ce que... Tout ça, c'est bien, tout ça, c'est bon, tout ça, il faut le faire, oui. Mais la question de Jésus à Simon, comme à nous, c'est « M'aimes-tu? » M'aimes-tu? Parce que nous suivons ce que nous aimons. Nous suivons qui nous aimons. Alors, c'est un appel, suivre Jésus, c'est un appel à aimer Jésus, premièrement. Mais c'est aussi un appel à tout abandonner pour Jésus. Jésus continue et dit, après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » C'est étrange comme question, hein? Et ça, est-ce que tu aimes Jésus plus que tous ces gens qui ici aiment Jésus? S'il dit oui, on va tous le regarder en disant, « Mais t'es bien prétentieux. » S'il dit non, on va dire, puis il est pasteur de jeunesse, hein, puis il aime Jésus moins que nous. C'est étrange comme question si c'est dans ce sens-là qu'on doit la comprendre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? La question n'est pas de qui est-ce qu'il parle, mais de quoi est-ce que Jésus parle? Parce que dans le texte original, le texte français nous fait passer un peu cette nuance et on passe un peu à côté du sens. Mais je vous donnerai pas un cours de grec, mais dans le texte original, le mot pour ceci, en fait, il est au genre neutre. Parce qu'en grec, comme en latin, par exemple, il y a trois genres, il y a le masculin, le féminin et le neutre. On n'a rien inventé, ça existait avant, des différents genres, semble-t-il. Je ferme cette parenthèse. En fait, le ceci n'est pas au masculin, ne vise pas des personnes. En fait, il vise des choses. En fait, ce serait mieux traduit par « Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? » Que ces choses ici. Jésus pointe les filets, le bateau, les poissons, le métier de Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que toutes ces choses? M'aimes-tu plus que tes rêves? M'aimes-tu plus que ta carrière? M'aimes-tu plus que tes habitudes? M'aimes-tu plus que tes loisirs? M'aimes-tu plus que ta vie? Es-tu prêt à tout laisser derrière toi pour me suivre? Est-ce que tu m'aimes réellement assez pour laisser ces choses derrière toi et me suivre là où je vais te conduire? Le verbe aimer que Jésus utilise est aussi très intéressant. Lorsque Jésus lui demande pour la première fois, m'aimes-tu? Il utilise le verbe agapeo, qui est l'amour le plus noble, le plus pur. Le meilleur amour, en fait, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour à son summum, c'est l'amour dans son sens le plus profond, le plus divin même et le plus authentique. Simon, est-ce que tu m'aimes à ce plus haut niveau d'amour? Parce que c'est là la clé de l'engagement. C'est Jean Calvin qui disait « Aucune personne ne peut persévérer à suivre Jésus à moins que l'amour de Christ règne et soit répandu dans son cœur. » Pour le dire autrement, je pourrais utiliser les mots de l'apôtre Paul, que personne ne peut persévérer à suivre Jésus à moins d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable et incorruptible. Alors Pierre répond à Jésus, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Mais Pierre utilise un autre verbe, « philéo », qui est l'amour fraternel. Les amis, Jésus lui demande, est-ce que tu m'aimes au plus haut niveau? Est-ce que t'es rendu là, Pierre? Et Pierre a l'avantage d'être honnête. J'ai de l'affection pour toi. Je te considère comme mon ami. C'est pour ça que dans le texte, j'ai mis plus affection que le mot amour. Simon, m'aimes-tu? Agapeo. Oh, tu sais que je te philéo, que j'ai de l'affection pour toi. Et le narrateur continue. Jésus continue à lui poser la question et à un moment donné, Jésus va descendre à son niveau et lui demande, « Simon, as-tu de l'affection pour moi? » Et le narrateur mentionne le fait que Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit à la troisième question, « As-tu de l'affection pour moi? » Et Pierre va répondre, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. C'est là que je suis rendu dans ma communion ou dans ma relation avec toi. C'est de l'affection. » Alors Jésus conclut, il dit, « Suis-moi alors, suis-moi avec l'affection que tu as, suis-moi avec ce que tu as aujourd'hui, mais moi je vais t'emmener à un autre niveau, je vais t'emmener plus loin. Tu te sens incompétent maintenant, tu dis, oh, non, j'ai failli récemment, j'ai juré même ne pas te connaître. Alors non, j'ai pas encore l'agapé à ton sujet, j'ai philéo par contre. Suis-moi. » Suis-moi, dit Jésus, je vais t'emmener à un niveau autre dans ton amour pour moi. Et c'est pourquoi Jésus continue avec ses paroles qui nous donnent froid dans le dos, parce qu'il va lui dire comment il va mourir. Il dit, « Ce que je te dis, c'est la vérité. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Quelqu'un d'autre va t'attacher, va te conduire là où tu ne voudras pas aller. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, Jésus dit à Pierre, « Suis-moi. » Pierre allait mourir par crucifixion. Et l'histoire de l'Église et les historiens nous disent que c'est effectivement le cas. Mais en quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Aimeriez-vous que Jésus vous dise qu'un jour tu vas mourir crucifié? « Wow, hey, je suis excité. Oh, c'est l'American Dream! » J'ai toujours voulu vivre ça dans ma vie. En quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Pierre? Lui dire qu'un jour, il va être crucifié. Ben, c'est pourquoi je crois que c'était une bonne nouvelle pour Pierre, malgré tout. Pour moi, ce que Jésus est en train de dire à Pierre, c'est « Pierre, Je le sais. Tu m'as renié à 3 reprises de me connaître. Tu as juré que tu ne me connaissais pas, que tu n'avais jamais été avec moi depuis les 3 dernières années. Oui, tu as échoué. Tu te sens indigne, tu te sens faible, inadéquat, incapable. Tu as même honte d'être ici. Tu voudrais retourner à ton ancienne vie. Mais Pierre, suis-moi, car je veux et je peux t'assurer qu'un jour, quand tu seras vieux, tu auras l'occasion de te reprendre, alors qu'on va te demander encore si tu me connais. Mais cette fois-là, je le sais, que tu vas répondre avec une grande assurance. « Oh que oui, je connais Jésus, je suis un chrétien. » Et tu vas le déclarer même au péril de ta vie, même devant la menace d'être exécuté par crucifixion. Tu vas proclamer mon nom, tu vas confesser mon nom, tu vas être à la hauteur, on va te lier, on va t'emmener au lieu où tu vas être crucifié. Je te demande simplement d'ici là, suis-moi et je vais faire de toi un homme, un roc, une pierre, et où tu vas être rempli d'amour pour mon nom. Ensemble, on va y arriver, Pierre. Par toi seul, tu n'y arriveras pas, mais suis-moi et on va y arriver ensemble. Mais tu vas glorifier Dieu même dans ta mort et tous tes frères vont le reconnaître. Pierre avait besoin de savoir que la prochaine fois où il serait confronté à une situation de vie et de mort, devant la possibilité même d'être crucifié, cette fois-ci, il allait rester ferme pour Jésus et qu'il ne renierait plus jamais son Seigneur. Il avait besoin de savoir ça, qu'il allait glorifier Dieu même dans sa mort. Pierre a tout abandonné pour suivre Jésus. Il allait obéir à Jésus jusqu'à son dernier souffle, peu importe ce qui lui en coûterait. C'est pas étonnant qu'après avoir su qu'il serait crucifié un jour, il entend des pas derrière lui. Est-ce qu'il pensait que c'était déjà un soldat qui venait le chercher? Mais non. C'est Jean qui le suit. Et Pierre regarde Jésus et lui dit, et lui, qu'est-ce qui va y arriver, lui? Et moi, je vais être crucifié, mais lui, qu'est-ce qui va lui arriver à lui? Et j'aime la réponse de Jésus. Pas de tes affaires. « It's not your business, ça te regarde pas. Toi, suis-moi. Arrête de regarder aux autres. Arrête de regarder ce qui va leur arriver à eux. Toi, suis-moi. Regarde pas en arrière. Regarde pas ceux qui te suivent ou qui te suivent pas. Regarde pas les autres pour voir comment ils font. Garde les yeux sur Jésus quand tu sens que toi-même t'as échoué, t'as failli. Garde tes yeux sur Jésus quand t'es déçu par toi-même ou que t'es déçu par les autres. » Garde tes yeux sur Jésus quand tu es jaloux du meilleur sort des autres. Garde tes yeux sur Jésus quand tout te réussit et que tout ce que tu touches devient de l'or. Hey, c'est formidable! Garde tes yeux sur Jésus. Suis Jésus. Toi, suis-moi. J'ai demandé aux musiciens de revenir à vos instruments, s'il vous plaît. 2 appels que je veux faire aujourd'hui. Est-ce que les musiciens sont ici? Oui, ça en vient. OK. Toi, suis-moi. Deux appels importants aujourd'hui, juste à ce message. Premier appel, il y a des gens ici ce matin, vous avez été invités par quelqu'un, ou ça fait quelque temps que vous venez, parce qu'il y a une voix à l'intérieur de vous qui vous attire constamment. Vous en rêvez la nuit. Il y a toujours un chrétien, une chrétienne sur ton chemin qui te parle. Il y a quelqu'un qui te harcèle avec Jésus, qui te parle, qui veut toujours partager sa foi avec toi. Il y a quelque chose en dedans de toi qui, comme si Dieu appelle ton nom. Toi, suis-moi. Je t'appelle. Ce n'est pas juste le go micro en avant en ce moment. Il y a quelque chose de Dieu qui te parle, que Dieu t'appelle à le suivre, Jésus t'appelle à le suivre. Et ça résonne à l'intérieur de toi. Je veux t'inviter à juste dire oui, Seigneur. Avec l'affection que j'ai, avec là où je suis rendu, avec mes blessures, avec mes péchés, avec mes manquements, avec mes incompréhensions. Je ne comprends pas tout ce que ça veut dire. Mais je veux suivre Jésus. Parce que je sais qu'il m'appelle. Je me sens un peu comme Lazare dans le tombeau. Mort. Je suis mort en dedans. Mais j'entends sa voix qui m'appelle à quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre pour moi. Dis-lui oui aujourd'hui. Réponds à son appel. Il t'en donne la capacité et il t'en donne le vouloir maintenant. Et si c'est une décision et c'est quelque chose à l'intérieur, ça résonne à l'intérieur de toi quelque chose, je veux t'inviter après la réunion, on termine dans quelques instants, juste aller à l'espace bienvenue. Je sais, je viens plus que chercher mon cadeau. Je veux suivre Jésus moi aussi. Juste besoin qu'on m'aide un petit peu. J'ai plein de questions. Va à l'espace bienvenue. Ou peut-être tu es venu avec quelqu'un. Quelqu'un t'a invité aujourd'hui. Tu diras à cette personne avant de quitter, j'ai entendu son appel. Je veux le suivre moi avec. Je veux le suivre moi aussi. Je vais avoir besoin d'aide. Je trébuche tout le temps. Puis je sens que Dieu a quelque chose pour moi. Un deuxième appel que je veux lancer aujourd'hui pour toi. Tu as déjà répondu à l'appel de Jésus une première fois. Il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans ou plus. Mais tu es arrivé des déceptions, tu es arrivé des tentations, tu es arrivé même des dépendances dans ta vie. Il y a des choses dans ce monde qui t'attirent, il y a des épreuves que tu as vécues, des difficultés, des échecs, des chutes qui t'ont amené à juste faire un pas de recul. À dire, ouais, je suis pas sûr. T'es refroidi dans ton cœur. Mais t'es ici ce matin parce que Dieu t'appelle. Jésus est sur le rivage, sur ton rivage à toi. Puis il t'invite à nouveau. Toi, suis-moi. Continue à me suivre. En ce moment, tu te sens ici, mais je veux t'emmener là. T'en as pas la force. T'es déçu, t'es blessé, mais je vais t'emmener à une place où tu vas surmonter tout ça, où tu vas pouvoir vivre pour moi, où tu vas retrouver cet entrain, cette vigueur, cette énergie pour me suivre parce que j'ai des grands plans pour ta vie. Seigneur, augmente mon amour pour toi. Seigneur, j'avoue, j'ai laissé mon premier amour, mais je reviens vers toi ce matin. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble, s'il vous plaît? Et si l'un ou l'autre de ces appels fait retentir quelque chose en toi, juste lève tes mains devant Dieu, lève ta main devant le Seigneur. Oui, c'est ce que je veux pour ma vie. Je veux répondre positivement à l'appel de Jésus aujourd'hui. Je veux répondre à son appel de le suivre maintenant. En 2023, c'est aujourd'hui, en ce 23 avril, je veux donner ma vie à Christ, je veux donner ma vie à Jésus, je veux recevoir Christ, je veux répondre à son appel qui retentit dans mon cœur. Et on va chanter ce chant, « Je te donne tout, Seigneur, je veux vivre pour toi. » Alors, j'ai besoin de toi, Seigneur, je viens devant toi. Et on lève nos mains devant Dieu et on chante avec l'équipe de louange ce chant comme une prière.